Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Bienvenue, chers compagnons, sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Dans chaque épisode, nous étudions l'actualité de notre mouvement ou du cloud en général. Puis, nous débattons sur un sujet de fond. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti! Et aujourd'hui, on va parler de souveraineté numérique, comme on vous l'avait annoncé dans le précédent épisode. Alors, je suis aujourd'hui toujours avec Damir et Erwan, et je vais les laisser se présenter. Damir, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur toi ?
Alors, moi, je suis ce que j'appelle réparateur de nuages, et je suis passionné du mouvement DevOps et de l'open source et du logiciel libre en général.
Bonjour, moi c'est Erwan, toujours DevOps dans une petite startup qui s'appelle Toucantoco.
Et moi, c'est Christophe, je fais partie du collectif de freelance Lydra. On aide nos clients à faire des transitions DevOps en les coachant ou en les mentorant. Et je suis aussi co-créateur et animateur du forum des compagnons du DevOps et de la communauté. On va parler tout de suite des actualités. Et Damir, tu nous as préparé une petite actu sur le piratage, je crois. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Effectivement. Alors oui, nous sommes dans une nouvelle décennie, comme vous l'avez remarqué, on est en 2020. Cette année a presque un look futuriste, et même si on n'a pas encore les voitures volantes qui ont été promises par des décennies de science-fiction, nous avons l'IoT, l'Internet of Things. Autrement dit, des objets connectés qui fleurissent dans notre quotidien. Notre réveil, notre brosse à dents, notre frigo, tout a désormais sa version connectée. Ou tout du moins, si la version n'est pas encore existante, une start-up travaille dessus. Alors, bien sûr, ce monde d'hyperconnexion et de simplification de la vie de tous les jours n'est pas sans défaut. Et nous l'avons vu il y a peu, Ring, c'est une filière d'Amazon spécialisée dans les caméras connectées, a subi un coup dur. La publication de milliers d'identifiants valides de caméras Ring ont été diffusées sur le dark web. Globalement, ça permettait de se connecter à distance aux caméras sans plus de blocage. Très rapidement, les pistes ont révélé l'origine de la fuite, visiblement issue de credential stuffing effectuées par un groupe de pirates voulant s'amuser en gagnant un peu de réputation. Ils ont tout simplement utilisé des données qui ont été fuitées par d'autres sites ou d'autres failles précédentes, et ils ont rassemblé tout ça pour voir quelles combinaisons étaient aussi valides sur les caméras Ring. Mais on peut se poser une question. Sommes-nous devenus fous à connecter tout ce qui existe, le rendre accessible sur Internet ? Car oui, avec ce type d'objet, on parle bien de rendre accessible des caméras, des micros, dans notre intimité, dans notre vie privée. Et là, on nous montre que oui, c'est pas sans risque, il y a des risques de piratage, mais le hacking n'est pas la seule problématique. Les sociétés qui fournissent ces solutions ont la main sur ces données, sur votre intimité. Ils pourraient très bien la monnayer. Ou nous l'avons vu il y a peu, The Verge a révélé que l'entreprise, donc Ring, avait renvoyé plusieurs employés pour utilisation abusive de caméras des clients, donc c'est-à-dire que les employés se connectaient sans autorisation sur les caméras des clients. Alors, avant de tomber dans la frénésie de l'hyperconnexion, demandez-vous si vous avez réellement besoin de cette fourchette connectée. Du coup, Erwan, t'en penses quoi de ces affaires de hacking des objets connectés ?
Je trouve ça toujours assez marrant, et ce qui est rigolo, c'est qu'on n'apprend pas trop de ce qui s'est passé auparavant, puisque ça me rappelle tous ces reportages qu'on a sur les sur regarde, cherche telle URL dans Google et tu peux avoir accès à toutes les caméras qui sont exposées sur le net de tel fournisseur ou je sais pas quoi. Et en fait, j'ai l'impression que bon, on sait tout ça, mais on continue quand même d'utiliser des outils, de pas savoir trop comment ça fonctionne, ni à quoi on s'expose en les configurant mal. Entre ça et les fuites de données, comme tu le décris, tant qu'on n'en a pas besoin, vaut mieux pas utiliser, vaut mieux pas. Je serais plutôt de cet avis-là.
Moi, ça me fait bien rire. Il y a quelques années, je voulais m'acheter une caméra connectée ou une enceinte connectée. Puis en fait, j'ai changé d'avis parce que je veux pas que mes données, en effet, soient comment dire, répandues dans le cloud ou ce genre de choses. Et puis en fait, ça pose la question de Est-ce qu'on fait confiance aux personnes qui créent ces objets et comment sont hébergées ces données? Et tant qu'il y aura des soucis comme ceux que tu évoques, moi en tout cas je serais pas prêt à utiliser des objets connectés de ce type-là. Ou alors des objets connectés avec des logiciels open source, peut-être, en effet, parce qu'on pourra voir ce qui se passe, on pourra les stocker sur nos propres serveurs, on pourrait peut-être avoir des fédérations de serveurs. Enfin, à mon avis, il y a quelque chose à faire dans cet ordre-là, pour pas laisser nos données justement entre les mains de personnes qui les captent et qui sont garants de nos données, mais qui ne font pas attention à ce qui l'advient.
Okay. Après, moi, je suis peut-être un peu caricatural justement sur cette idée de l'open source, etc. Mais je me dis vraiment que les gens qui utilisent l'open source et qui sont sensibilisés à ça, c'est pas des gens qui vont être justement dans cette frénésie de connecter tout. Donc, je me dis que c'est pas eux qui en auront besoin, malheureusement. Donc, c'est pour ça, ça me semble un peu une voie sans issue de ce côté-là aussi, quoi.
C'est clairement de la comment ça s'appelle, il faut propager la bonne parole autour du grand public sur tous les risques sous-jacents de ce genre de choses, quoi. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, globalement les personnes un peu plus alertes, elles vont réfléchir un petit peu à comment ça fonctionne avant de se lancer à vouloir connecter la moitié de leur maison et éventuellement d'exposer des infos, quoi.
Ouais, clairement, c'est à nous, personnes qui nous posons des questions, d'informer les autres personnes qui nous entourent, le grand public. Parce que si on attend que les médias ou les médias spécialisés le font, je suis pas sûr qu'en fait on soit encore là quand ils le feront. Erwan, tu nous as préparé un petit billet d'humeur sur les tendances à venir.
Bon, c'est très rapide, mais ça m'a fait rire. Donc, comme tous les ans, à cette période, tous les magazines d'IT, que les DSI, les grands groupes ou autres, lisent, font des espèces de prédictions sur quelles vont être les tendances de 2020, etc. Et donc, là, cette année, la tendance qui est relevée donc, par tous ces magazines d'IT, c'est... tout en serverless. Alors le serverless, qu'est-ce que c'est? On ne s'occupe plus de la partie de comment on héberge le code, votre solution, quoi que ce soit. On upload juste le code et la fonction, puisqu'on parle de fonction as a service. Tous les grands providers de cloud ont cette feature à disposition. C'est des features d'ailleurs qui datent depuis un bout de temps, parce que j'ai vu que, par exemple, sur Amazon, le AWS Lambda est dispo depuis 2014, donc ça commence à faire quelques années. Et ce qui est rigolo, quand on lit ces articles sur ZDNet ou le MagIT ou le Monde Informatique, etc., c'est qu'ils disent « oui, il faut tout passer en serverless parce qu'il y a énormément de gains d'argent à faire. Vous vous rendez compte, vous n'avez plus à vous occuper de la capacité de vos serveurs, vous n'avez plus à vous occuper juste de shipper votre code, quoi. » Et moi, ce qui me fait un peu, c'est ce que je trouve assez marrant, c'est que même si c'est une promesse qui est géniale de ne pas avoir s'occuper de la partie infra entre guillemets, d'essayer de faire une architecture qui est basée que sur les événements, etc. Si la promesse est super cool, le mouvement est pas évident à entreprendre. Bouger une infrastructure un peu à l'ancienne vers ça, c'est quand même pas mal de boulot. Mais dans ces articles, ils en parlent pas trop, donc c'est ça qui me fait rire. Et donc du coup, ça me permet d'ouvrir la question sur quelles sont les tendances que vous voyez pour 2020.
Alors moi, du coup, pour le 2020, ouais, serverless, bon, c'est quelque chose qui est assez vieux, mais qui continue à se démocratiser aussi. C'est aussi simplement, je pense, comme tu l'as dit, c'est un coût d'investissement de tout redévelopper, de prévoir pour ça. Et pendant des années, au début de la hype du cloud, il y a plein d'entreprises qui ont juste fait du lift and shift. Ils ont pris leur VM, ils ont mis sur le cloud sans trop réfléchir. Aujourd'hui, on est peut-être plus dans un mode où ils ont un peu de recul et se disent, il faut prévoir notre application pour fonctionner en cloud. Donc il faut qu'on prévoie pour utiliser un maximum de serverless pour faire des économies, des choses comme ça. Donc je pense que ça va être une grosse tendance. Après, moi je pense aussi qu'il va y avoir la partie DevSecOps qui fait beaucoup parler d'elle et qui va commencer vraiment à rentrer dans une phase de maturité entre guillemets, et on va commencer à avoir de plus en plus d'interactions avec les équipes de sécurité, ce qui est vraiment une chose pour moi géniale, parce que c'est toujours la sécurité, c'est toujours une équipe qui a été un peu à part dans les processus informatiques, même avant le DevOps et tout ça. Donc je trouve que c'est bien de me remettre autour de la table, parce que leur rôle aujourd'hui, on l'a vu avec Ring par exemple, leur rôle est primordial en fait aujourd'hui.
Moi, je suis assez d'accord avec Damir. Je pense que la sécurité, notamment dans le cloud, va vraiment être importante. Et rapprocher les équipes sécurité des équipes d'ops dans le mouvement DevOps, pour moi, ça fait clairement sens. Surtout que actuellement, on a quand même un gros move vers les conteneurs. Et pour l'instant, la sécurité des conteneurs, je suis pas sûr que on la trace, notamment les failles de sécurité ou même des scans de conteneurs. Je suis pas sûr qu'on le fasse. En tout cas, c'est quelque chose pour lequel moi je vais investir cette année. C'est comment est-ce qu'on scanne des images et comment est-ce qu'on s'assure qu'elles soient, sécurisées. Et alors le FaaS, Function as a Service, moi ça fait un petit moment que j'en entends parler et c'est super intéressant. Après, ça veut pas dire qu'il y aura plus d'ops, ça veut juste dire que les ops ils seront ailleurs ou ils s'occuperont d'autres choses. Je sais pas ce que vous en pensez, vous.
Alors oui, je pense que les ops, de toute façon, c'est un rôle qui sera toujours, ne serait-ce que pour designer les infrastructures. Parce que même si on dit tout ce qui est serverless, parce que serverless, il n'y a pas que le FaaS, hein, il y a plein d'autres choses. Il faut quand même les mettre en place, il faut quand même réfléchir à l'organisation de tout ça, les interactions, les montées en charge, des choses comme ça. Des notions qui existent toujours et qui vont évoluer en fait. Donc je pense que le métier d'ops va juste encore évoluer. Mais je pense oui, et pas qu'il va disparaître totalement. Là, il n'y a pas de. J'ai pas trop de crainte là-dessus.
Et Erwan, t'en penses quoi?
Je suis assez d'accord avec Damir. Même si effectivement ça retire une complexité sur certains sujets, ça n'empêche que l'aspect architecture, le capacity planning, des choses comme ça. En fait, c'est comme le cloud. Et avec les services managés, ça retire une certaine complexité qui fait qu'effectivement, on n'a peut-être pas besoin d'ops pour certaines parties, mais mine de rien, dès que ça grossit, dès que ça devient un peu plus ambitieux ou quoi que ce soit, il faut des gens qui s'occupent de ces sujets.
Alors moi, je vais vous parler de quelque chose qui est une actu, mais qui n'est pas une actu tech, enfin pas pleinement. Je vais vous parler de la réforme des retraites. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de la réforme des retraites? C'est parce qu'en fait, il y a un site qui a popé il y a pas longtemps et que j'ai vu arriver sur Twitter, en tout cas, c'est onestla.tech. On est là.tech, c'est quoi? C'est un manifeste en fait qui est écrit par des travailleuses et des travailleurs du numérique et qui souhaitent une autre réforme des retraites. Et ils nous rappellent dans leur manifeste que l'automatisation et plus largement l'industrialisation, puisque depuis l'ère industrielle, ce sont quand même des idées qui émergent, c'est qu'en fait l'automatisation c'est une chance pour l'humanité de déléguer des tâches qui sont fastidieuses ou ingrates, voire ennuyeuses. Et le souci, c'est qu'avec l'automatisation, aujourd'hui, en fait, les richesses qui sont produites par les machines, elles sont accaparées par une poignée de personnes, et ça amplifie les inégalités. Et là, on parle pas de 3 sous, hein, on parle de 3 300 milliards de dollars qui ont été générés par les entreprises de la tech en 2019. Donc, ces 3 300 milliards, comment est-ce qu'ils sont répartis? Toutes ces questions-là se posent. Et donc, dans le manifeste, les personnes qui l'ont écrit nous rappellent que travailler plus longtemps, c'est pas forcément une solution viable, c'est aussi une solution qui est anti-écologique, parce que qui dit travailler plus longtemps dit produire plus, dit consommer plus, c'est l'idée qui est derrière cette réforme des retraites qu'on nous présente. Et ça nous questionne aussi sur le problème de qu'est-ce qu'on fait des personnes qui sont écartées de l'emploi par l'automatisation. C'est une question qui pour l'instant est pas abordée, et pourtant on voit en 2020, les impacts que ça a, puisque l'automatisation, ça n'a pas commencé avec l'informatique, ça a commencé bien avant. Ils nous disent aussi que ces progrès doivent servir l'humanité, comme travailler moins, être à la retraite plus tôt, lutter contre la pauvreté, bref, vivre mieux partout et pour tout le monde. Dans le manifeste, il y a aussi un engagement, justement, qui pousse les gens qui l'ont signé à ne pas travailler sur des outils qui sont conçus pour exploiter ou à servir les gens. En gros, le manifeste appelle à participer au mouvement de grève, aux manifestations, ou à alimenter les caisses de grève pour compenser les revenus des grévistes, ou à afficher sur notre site ou sur nos sites des soutiens à une lutte contre la réforme, puisque les personnes qui l'ont signé, et je l'ai signé, ce qu'on veut, c'est une autre réforme. Alors pour l'instant, il y a presque 2000 signatures. Moi, ça me rappelle un petit peu le mouvement qui avait été initié par la lettre de Copenhague en 2007. Je vous mettrai les liens dans la description. Ou aussi le Climanifeste. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant et qui est vraiment, en tout cas pour moi, révélateur. C'est qu'en fait, les personnes de la tech commencent à se poser des questions et à faire parler et à parler de choses qui sont politiques. Erwan, qu'est-ce que t'en penses, toi?
C'est des sujets qui sont clairement pas évidents parce que, enfin, effectivement, c'est pas cette news, c'est pas une news tech, mais c'est quel choix de société on veut pour la suite. Et effectivement, ça tout tous les corps de métier ou quoi que ce soit sont conviés à réfléchir à ça. Au sujet de l'automatisation, effectivement, c'est un sujet hyper délicat parce que aujourd'hui, on est dans une telle frénésie capitaliste que moins il y a d'humains, plus on peut automatiser et mieux c'est. Je pense que le meilleur exemple, c'est les espèces d'entrepôts Amazon où il y a les petits robots qui déplacent les étagères avec les objets dessus. Du coup, il n'y a plus besoin de monde dans les usines. Mais c'est des questions hyper compliquées. Honnêtement, je ne saurais pas comme ça, sans une réflexion plus approfondie, donner un avis pertinent.
Ouais, c'est vrai que comme Erwan l'a dit, c'est vrai que c'est une question. De toute façon, la réforme des retraites, c'est une question qui est très complexe, parce que bon, il y a plein d'aspects. Il y a l'aspect bah, du bon, il y a ce mouvement-là, mais aussi l'aspect de gestion de crise du gouvernement, ça qui est très critiquable et qui pousse certaines choses aussi, hein. On va pas se le cacher, mais je pense aussi que c'est bien que les gens de la tech en fait puissent un peu se mobiliser parce que premièrement, il y a une grosse capacité, comme tu dis, c'est un secteur qui rapporte énormément, donc je pense qu'il y a une grosse capacité à se faire écouter parce que ça représente beaucoup, parce que ça peut potentiellement faire retarder plein d'autres choses. C'est un peu comme les trains ou l'électricité, c'est vraiment des domaines qui ont un impact sur les autres et qui ont un impact visible qui peut du coup engager, forcer un dialogue. Après, je sais pas si le mouvement va vraiment décoller parce qu'on est quand même beaucoup dans l'IT en France. C'est clairement un marché qui est en la faveur bah, des employés, hein. On est plutôt bien payé, on a zéro souci pour trouver un boulot. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui vont, et pour en avoir entendu certains, qui vont être un peu, je dirais pas oui, peut-être égoïste, et qui vont se dire, moi ça me pose pas problème, j'ai de quoi vivre, dans tous les cas, il n'y aura pas de souci là-dessus. Donc je pense que le mouvement pour l'instant va peut-être être limité, mais il y a une prise de conscience effectivement qui commence pour le secteur de la tech, et espérons qu'il grandisse et qu'il y ait un vrai poids après, des vraies choses en fait, qui puissent nous faire donner de l'importance dans les débats.
Oui, exact. Je voulais finir par cette actu parce que ça va nous faire une transition parfaite pour notre petit débat puisqu'on va rester dans la politique, la prise de conscience, puisqu'on va parler de souveraineté numérique. Alors, vous trouverez un épisode que j'ai enregistré en solo qui vous explique brièvement l'historique du Cloud Act puisque on va principalement parler d'hébergement dans cet épisode de Radio DevOps. Donc, le Cloud Act, quel impact ça a pour nous? Et quel impact ça a pour l'hébergement en général? Alors, on sera tous les trois d'accord pour dire que, en gros, la majorité des sites qu'on visite sont hébergés par les trois grands américains que sont Google Cloud, Azure et Amazon Web Services, et que ça a un impact considérable sur les données et les applications qu'on va héberger chez eux. Est-ce que, Damir, toi, tu t'es déjà posé la question de ça, d'aller dans, en tout cas dans ton métier, de poser les applications ou les services web sur ces trois-là, qu'est-ce que ça pouvait avoir comme impact?
Alors, c'est vrai que moi, ça me concerne quand même pas mal, vu que je fais beaucoup de migrations, je travaille principalement sur de l'AWS. Après, je suis quelqu'un qui, dans ma vie personnelle, j'évite au maximum, même si pour mon blog, pour des raisons qui ont déjà été expliquées, bah, je suis sur AWS. Mais globalement, je suis d'accord qu'il y a des risques. Le Cloud Act, on sait que bah, si demain une société américaine, moi, le gouvernement américain veut accéder à une donnée d'un client et que vous êtes sur du cloud, bah vous pouvez rien dire quoi. Il a ce droit entre guillemets. Après, j'essaie de prendre un peu de recul par rapport à tout ça en me disant on a eu des révélations notamment sur des backdoors au niveau des processeurs et tout. Et je me dis que il n'y a pas de solution magique. On peut essayer dans les coups chauds de chiffrer de bout en bout, d'essayer de faire le maximum. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai l'impression, et c'est une impression que j'ai, qu'il est très compliqué, qu'il est très coûteux de faire quelque chose qui soit vraiment, on puisse dire. Bah, je suis à 99% résistant à ce qu'il pourrait avoir comme leak de données. Donc, moi, je pense que ouais, le Cloud Act, c'est sur papier, ok, ça peut faire peur, et ça fait peur, et c'est normal, mais je pense aussi que malheureusement, les Américains ne se cachent pas de pas utiliser le Cloud Act et de directement en fait aller chercher les données à la source quand ils en ont besoin, et c'est ça qui avait été relevé à l'époque par Snowden notamment. Et donc, c'est pour ça, voilà, moi, je pense qu'au-delà de ça, il y a un vrai souci de se dire que ben, ils s'en cachent plus du tout et qu'on se pose pas forcément la question parce qu'il y a une question de moyens tout simplement.
Oui, je rejoins encore une fois ce qui est dit. Mais malgré tout, enfin moi au quotidien, clairement les clients qu'on a là où je travaille, ils veulent pas être hébergés sur un des trois gros pour toutes ces raisons quoi. Mine de rien, je pense qu'il y a quand même une espèce de peur, de peur ambiante sur ce sujet, parce que en fait, même si tu le dis, il y a eu des leaks reconnus par d'autres moyens, et donc on n'a pas forcément besoin de ces lois comme le Cloud Act qui permet enfin, de demander n'importe quelle donnée hébergée chez un acteur américain. Mais n'empêche que nativement, les clients qu'on a dans la boîte où je suis, ils veulent pas être sur un de ces trois-là. Et du coup, effectivement, il faut trouver des alternatives, que ce soit aussi bien technique que fonctionnelle et autres. Aujourd'hui, c'est pas forcément évident de se positionner, parce que même s'il existe des alternatives, enfin, par exemple en France avec OVH, Scaleway, etc., bah, n'empêche que les trois ont une telle... Je pense une avance en termes d'image, mais même en termes techniques, au niveau des fonctionnalités, que je sais pas, par exemple les intégrations avec Terraform ou des trucs comme ça, que du coup, c'est un sujet qui est vraiment pas évident, quoi.
Non, c'est pas évident. Alors, de notre côté, chez Lydra, en tout cas, nous, on a décidé de plus travailler avec les trois gros. On a décidé de privilégier l'open source, ce qui veut dire déjà travailler avec des hébergeurs qui proposent du OpenStack ou des Français comme Scaleway, Online, etc. Après, en effet, le paysage francophone, il n'est pas encore très bien répandu, même si on a quand même de la chance en France d'avoir OVH et Scaleway Online, parce qu'ils font quand même du bon taf par rapport à d'autres pays qui sont un peu à la traîne. Après, moi, ce qui m'inquiète encore plus, parce que le Cloud Act, c'est juste en effet une officialisation de ce que les Américains faisaient déjà, bien que ce qu'ils faisaient déjà, c'était plutôt la NSA qui allait espionner avec le support justement des hébergeurs cloud ou des fournisseurs comme Microsoft, qui fournissaient des données qui étaient scannées depuis les operating systems, donc des systèmes d'exploitation. Mais là, avec le Cloud Act, ça s'est étendu, c'est-à-dire qu'en fait, y a pas que la NSA, il y a aussi des membres du gouvernement ou je sais pas les juges. Enfin, toutes ces questions-là, ça pose souci. Et en plus, on n'est même pas au courant si jamais nos données, elles sont aspirées par les Américains.
Moi, je me permets de couper parce que c'est ça que j'ai. Moi, je connaissais pas forcément tous les détails du Cloud Act, mais j'ai regardé. Donc, finalement, c'est quand même assez récent, c'est de mars 2018. Et en fait, ce qui est assez surprenant, c'est que c'est juste sur une demande à un juge. Et en fait, je pensais que, enfin, un peu naïvement, que genre il y avait que trois juges qui avaient ce droit-là. Mais en fait, non, c'est un droit qui est. Enfin, c'est une. C'est comment dirais-je, un privilège que beaucoup de juges ont, visiblement. J'ai plus le chiffre, je retrouve pas l'article que j'avais lu là-dessus. Mais si ce juge met son tampon, en fait, effectivement, non seulement ça peut être fait en toute légalité, mais en plus, les personnes qui sont sous le joug de ce Cloud Act, ils sont pas forcément au courant. Et moi, j'étais hyper surpris de lire ça. Donc en fait, il y a vraiment un côté boîte noire, et je trouve que ça renforce beaucoup l'effet sueur froide que je sais pas, par exemple les compagnies du CAC 40 en France pourraient avoir à héberger des choses très délicates sur ces plateformes.
Après, oui, c'est vrai que comme tu le dis, je pense qu'il y a un truc qu'il faut avoir en tête, c'est tout simplement ton business model. Si tu as des données sensibles, c'est sûr que tu vas en prendre compte. Après, si demain, je reprends l'exemple de mon blog, mais quand tu veux juste héberger des choses qui, dans tous les cas, sont publiques, bah, faut pas se le cacher, ça pose pas spécialement de problématique. Après, moi, il y a un truc quand même moi, j'ai aussi beaucoup travaillé avec OVH et avec Scaleway, mais faut pas oublier qu'ils ont du retard, ce qui est tout à fait normal, parce que c'est pas la même taille. Aujourd'hui, faut se dire qu'Amazon, le budget juste recherche et développement d'Amazon était de 22,6 milliards de dollars. C'est juste monstrueux, c'est l'entreprise qui a investi le plus dans la R&D. Et pour rattraper ce retard, entre guillemets, même si on se base sur des solutions open source qui ont déjà été éprouvées, comme OVH avec OpenStack et des choses comme ça, il y a quand même un delta qui est dur à rattraper aujourd'hui. Bah, les intégrations Terraform, par exemple, clairement, oui, elles sont beaucoup plus, comment dire, moins poussées sur des fournisseurs autres que les trois GAFAM. J'espère que ça va se réduire avec le temps et avec le passage en open source de beaucoup de choses, hein, parce qu'on peut se dire que Amazon, par exemple, ils ont mis en open source leur système de ces Firebugs pour lancer des micro-VM. Donc on peut se dire qu'en mettant en open source des choses comme ça, on peut aussi récupérer de la connaissance qui a été acquise par les R&D des grosses entreprises pour commencer à monter en fait des choses qui soient vraiment bien. Mais je pense honnêtement, de mon point de vue, si on n'a pas de données sensibles, que aujourd'hui c'est pas forcément facile de se dire, bah, je vais aller sur un autre fournisseur qu'un des GAFA. Et je vais potentiellement bah, du coup avoir des choses un peu moins, je vais pas dire, j'ai pas envie de dire évoluer, mais un peu moins poussé dans l'intégration. Et après, si je peux rajouter un dernier point, c'est parce que j'ai commencé à faire des recherches pour un article là-dessus. Faut se dire que Amazon et tout ça, ils ont fait quelque chose de très intelligent. Ils avaient des grosses DSI, ils avaient des gros besoins de sites. Eux, ils étaient déjà dans le futur de nos besoins, en fait. Donc, ils se sont dit, on a fait beaucoup de recherches en interne pour pouvoir assurer les montants en charge de nos sites, etc. On n'est pas con, on va capitaliser là-dessus, on va revendre ça sous forme de service. Et ça a été une idée de génie qui leur a fait économiser énorme parce qu'ils n'ont pas eu à réfléchir à des technos. Ils les avaient déjà, ils ont juste adapté pour le cloud public. Donc, déjà, ça leur fait économiser beaucoup d'argent. Et quand ils ont été justement dans un marché où, comme aujourd'hui, ils sont un peu en domination du marché, ils ont fait une autre chose très intéressante, ce qui verrouille de plus en plus, notamment auprès des écoles, en signant des multiples partenariats, des formations et des choses comme ça. Et c'est vrai qu'ils ont un jeu là-dessus qui nous pousse à les utiliser. Et des fois, même en sachant des clients, même en sachant qu'il y a le Cloud Act et des choses comme ça, si t'as pas de données sensibles, ils disent bah oui, mais en attendant, les techniciens que je trouve sur le marché, ils sont formés là-dessus, ça marche plutôt bien, il y a plus d'intégration. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ça à prendre en compte, je pense. Mais je garde espoir pour les années à venir.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ouais, et puis il y a des choses aussi hein, toutes bêtes, mais ils font quand même beaucoup, beaucoup d'évangélisation en donnant tout un tas de crédits aux startups ou quoi que ce soit, et en leur promettant, et quelque part c'est vrai, de dire écoute, utilise nos services managés, nous on te donne des crédits pour X temps qui vont te permettre de démarrer ton business, et en fait toute la partie infra et tout un tas de services, tu n'auras pas à t'en occuper, c'est nous qui gérons dans notre cloud. Et en fait, forcément, c'est hyper séduisant, il y a plein de gens qui sautent là-dessus, puisque ça leur enlève une épine de pied. Et comme tu disais, le truc qui est particulier, c'est que forcément, plus on utilise, c'est un cercle vertueux, plus ça va être utilisé, plus les gens sont formés à ces technos, à ces services. Et donc du coup, pour proposer une alternative, c'est de plus en plus compliqué. Et alors, je ne sais pas ce que ça vaut, mais j'ai vu sur, encore une fois, le monde informatique. Si on prend Amazon, Microsoft, Google, en 2018, il est écrit qu'en termes d'infrastructure as a service, bah, c'était 70% du marché. Donc c'est... Bon, les alternatives, elles sont quand même pas marginales, mais elles sont nettement plus réduites.
Mais du coup, ça va faire une transition très bonne pour la deuxième partie. Je voulais qu'on parle de notre dépendance, justement, vis-à-vis de ces trois grands. On en a un peu parlé, mais le fait, justement, qu'ils soient si répandus, est-ce que ça nous rend pas vraiment dépendants d'eux? Et pour ça, je vais parler de deux choses, notamment le shutdown qui a eu lieu l'an dernier. Donc, je vous mettrai un lien dans la description d'un article en fait que j'avais écrit qui parlait du shutdown, du fait qu'on ne sait pas quelles données les Américains ont sur nous. Le fait qu'il y ait un shutdown et qu'il y ait notamment un shutdown dans les parties sécurité informatique des gouvernements américains, on ne sait pas quelles données pourront être captées par les pirates, par exemple, parce que les pirates peuvent, en tout cas, s'attaquent aux données, aux serveurs pendant les shutdowns, parce qu'il y a moins de monde qui s'en occupe. Et la deuxième chose, on est dépendant des services US, notamment GitHub, GitLab et autres, Docker Hub, etc., qui donnent une force aux Américains absolument impressionnante, puisque, je ne sais pas si vous vous souvenez, cet été, suite à l'embargo iranien, et ben les développeurs iraniens ont tout simplement vu leurs accès à GitHub, à Docker, au Docker Hub et à GitLab coupés du jour au lendemain, sans pouvoir faire quoi que ce soit, en fait. Et donc, les développeurs des solutions open source qui hébergeaient leur code sur ces plateformes-là pouvaient même plus accéder à leur code, pouvaient même plus collaborer. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous en pensez justement de cette dépendance-là qu'on a vis-à-vis des Américains? Outre le fait que c'est beau, ces services-là, ils sont au top, ça c'est sûr, mais est-ce que justement on n'est pas pieds et poings liés avec eux?
Alors oui, c'est sûr que quand tu vas, comme Erwan le disait, si demain tu montes une start-up, au bout de, je sais pas, de 3 jours, le temps que t'aies un article qui est publié toi sur n'importe quel magazine, c'est bon, tu vas avoir Google qui t'appelle, tu vas avoir Amazon qui t'appelle, ils disent tiens, on te file une année de crédit, tu payes pas ton infra. Quand t'es une start-up, déjà, c'est un peu dur de dire non, parce que c'est quand même un gros coup, hein. Mais c'est là aussi le truc, c'est qu'ils veulent te locker dedans. Donc on est locké souvent dans les fournisseurs de cloud, parce que les services sont différents d'un fournisseur à l'autre. Il faut pas oublier, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas forcément approfondi le truc, Terraform a beaucoup de providers, mais si demain vous avez un truc sur avec du Terraform sur AWS et vous voulez aller sur du autre, n'importe quel autre fournisseur, vous allez devoir tout redévelopper. Donc c'est pas aussi simple de ça, et il y a un gros souci d'interopérabilité là-dessus, dû aussi à la non-utilisation de standards. Après, c'est vrai que moi je me suis toujours dit que c'était très dommage, et là encore, on a quand même fondé l'Europe, on aurait pu faire des beaux projets ensemble, on aurait pu faire vraiment des choses assez sympas. On a quand même une grosse masse de personnes. Par exemple, les administrations auraient pu avoir leur distribution, des choses comme ça. On aurait pu avoir un fournisseur de cloud européen, on aurait tous investi dedans, on aurait pu avoir beaucoup de choses comme ça, et on n'a jamais su s'y mettre. Et encore une fois, il y a aussi un autre truc très con, mais c'est que c'est bien beau, on a nos fournisseurs cloud, mais on a un gros problème dans tous les cas. C'est que les machines, tout ça, tout est fabriqué en Chine. Donc d'un côté, on a les Américains qui vont nous pomper des données ou qui ont justement ce moyen de pression, comme tu dis. Mais de l'autre côté, on a la Chine qui a aussi ses backdoors. Donc du coup, il aurait fallu, selon moi, se regrouper à l'échelle européenne et se dire, on fait au moins à petite échelle pour ce qui est critique, nos applications, nos choses à nous, et on est sûr de bout en bout.
Ouais, alors moi ça me fait penser à plusieurs petites choses. La première, c'est que, je vais pas revenir sur le fait qu'effectivement on est hyper lié aux États-Unis, vu que tous les jours on utilise Gmail, tout un tas de services. Donc ça, je pense que c'est acté. Ça me fait penser à des trucs. Effectivement, il n'y a pas d'initiative à l'échelle européenne. En tout cas, j'ai pas trouvé. Mais par contre, j'ai vu qu'il y avait des initiatives genre un peu d'envergure qui étaient poussées par l'État, etc. Et en fait, elles ont toutes été des échecs assez importants. Et le truc que j'ai trouvé, je ne connaissais pas avant de chercher, c'est le projet Andromède. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une association entre Thales et Orange. Et l'idée, c'était de développer un cloud souverain en France, étant hébergé sur plusieurs providers français, etc. Bon, ça, l'idée a été lancée en 2009 et en fait, ça a fait un flop mémorable. Et là, et c'est rigolo ce que tu disais, Damien, parce que je voulais en parler, c'est qu'effectivement, on parle beaucoup de cette dépendance aux services américains, mais on est énormément lié aussi, du coup, à la production qui est essentiellement en Asie. Et il y a bien sûr l'aspect informatique, mais de façon plus générale, l'aspect télécom, puisqu'il y a l'histoire avec Huawei qui doit déployer la 5G en France, par exemple. Et on se retrouve encore dans des cas où on peut imaginer que des backdoors laissés, j'en sais rien, pour récupérer de l'information. Et donc du coup, tout ça fait quand même un peu hyper réfléchir sur notre façon de concevoir notre avenir sur ces différents sujets, sur comment rester le plus indépendant. Et moi, je ne suis clairement pas un spécialiste de ces questions, mais à part le chiffrement de bout en bout, je vois pas trop de possibilités pour être serein, quoi.
Alors, le chiffrement de bout en bout, c'est en effet une solution pour pas se faire voler ses données, mais par contre, c'est pas une solution quand le président américain va dire, bah voilà, par exemple, la France, on la met sous embargo, on coupe tous les accès. Donc là, tout ce qui est hébergé chez les trois gros, c'est fini. GitHub, GitLab, c'est fini. Docker Hub, c'est fini. Enfin bon, autant dire que si ça arrive, on est un peu dans le caca. La question, c'est comment est-ce qu'on peut rebondir? Donc ça, on va en parler en troisième partie. C'est vrai que j'avais abordé ça dans mon article, justement, sur pourquoi est-ce qu'on ne devait pas aller chez les trois gros. Cette propension qu'a Amazon, Google ou Azure à nous offrir des crédits pour aller chez eux, c'est quand même pervers parce que, comme tu dis, en effet, une start-up, elle n'a pas le choix, elle doit y aller parce que, elle a pas de sous et après il y a des alternatives en France, notamment il y a le programme Startup qui a été lancé par Scaleway cette année, enfin l'année dernière, et le programme Digital Launchpad par OVH aussi qui permettent justement d'avoir des crédits d'infrastructure. Donc tout n'est pas perdu. Je pense qu'on a quand même une petite voie pour nos startups nationales. Après, vis-à-vis de la dépendance au matériel, c'est vrai que c'est un autre gros problème. Et en fait, là on touche au backdoor, on touche en fait à la guerre économique qui a lieu en ce moment, qui ne dit pas son nom, hein, parce que dire guerre économique, c'est un peu un gros mot, j'ai l'impression, mais pourtant, elle est là. Le CLOUD Act, c'est une arme de guerre économique au service des États-Unis, et l'Asie, s'il voulait, en effet, pourrait très bien mettre des backdoors de partout, et ça se trouve, on le saurait même pas. Il faut quand même se mettre en ordre de marche, commencer par quelque chose, commencer par le logiciel, parce que pour moi, en tout cas, on a les compétences largement en Europe et en France, et après aller côté matériel, et c'est sûr que là, on devrait pouvoir faire beaucoup de choses, parce qu'on n'est quand même pas des manchots, et en Europe, on devrait pouvoir en effet coopérer pour avoir des grandes entreprises. Enfin, on a prouvé dans l'aérospatial qu'on pouvait le faire, donc pourquoi pas dans l'informatique et dans le matériel. Quelle piste on peut avoir? Est-ce que vous en avez?
Bah alors, comme on a dit, on a déjà essayé de faire des choses. Il y a eu CloudWatt, donc du coup l'alliance de grosses entreprises françaises pour faire un cloud souverain entre guillemets. Moi, comme j'ai dit, je pense vraiment qu'il faut penser ça à un niveau européen parce que vous avez entendu le budget d'Amazon en R&D. On peut pas se dire la France comme ça. On va juste chercher deux trois investisseurs de grosses boîtes françaises qui vont investir à moitié parce que bon, c'est quand même la France. Dès qu'il y a une initiative, on est un peu hésitant. Je pense qu'il faut déjà concevoir ça à l'échelle européenne. Il faut surtout pas concevoir ça avec des boîtes dont c'est pas totalement l'expertise. On a demandé ça à Orange ou à Thales ou des choses comme ça, même s'ils savent faire des choses, ils ont des très bons techniciens. Moi, j'aurais plutôt demandé ça à du online, du Scaleway, de l'OVH, à des choses comme ça, pour leur dire, bah écoutez, vous avez de l'expertise là-dessus, vous avez déjà fait des choses, vous pouvez même nous faire un retour d'expérience, pas qu'on fasse les mêmes erreurs que vous avez fait, par exemple, en mettant en place une infra, et se dire, on investit, tous les pays investissent un peu là-dedans, et faire un truc efficace. Mais il faut s'unir, malheureusement, il n'y a pas trop d'autres choix.
Ouais, mais enfin, je suis peut-être hyper pessimiste, mais j'ai l'impression que c'est un combat qui n'est pas évident parce qu'on voit d'ailleurs, Amazon a ouvert un data center en France il n'y a pas très longtemps, c'est un an ou 2 ans, je sais plus. Mais en fait, le message qui était derrière, c'était de dire, bah, vous voyez, on est aussi dispo sur votre sol, il y a une espèce de brainwashing là-dessus pour rendre joli un petit peu tout ce qu'ils font et se racheter une image sur les peurs qu'on peut avoir qui est importante. Moi je sais au travail du coup on est essentiellement hébergé chez Scaleway, chez Online et c'est cool, ça marche bien, mais je suis conscient qu'on est vraiment très loin derrière en termes de qualité de service de ce que proposent les gros. Donc, il y a une réalité économique où il y a plein de gens enfin plein de boîtes qui vont dire bah écoute c'est cool d'être en France machin et tout, mais en vrai je vais plus vite et je fais mieux avec les autres et donc je vais aller là-bas.
Alors, je trouve que c'est un effet pervers d'avoir ce discours-là, parce que, en gros, ça veut juste dire que on n'accepte pas d'avoir de soucis. Alors qu'en fait, il y a 10 ou 15 ans, je pense qu'on savait faire sans le cloud public. Et pour moi, il n'y a pas de, enfin, c'est sûr, c'est plus facile d'aller chez les gros. Mais le savoir-faire, il est pas perdu. Enfin, je veux dire, on pouvait faire de la haute disponibilité avant même le cloud public. On peut très bien continuer à faire de la haute disponibilité chez Online ou Scaleway. Mais c'est à nous de le faire. Enfin, pour moi, ces fournisseurs, en fait, ils ne fournissent que des machines. Et on attend à ce qu'ils fournissent en effet du service parce que, les cloud providers de cloud public américains, ils nous ont habitués à ça. Mais ça veut aussi dire que toute la partie engineering ou R&D pour fournir du service, elle est partie chez les Américains, et du coup, est-ce qu'on l'a encore en France ? Je sais pas. Ça me fait aussi penser à un article de blog qu'avait écrit Octave Klaba, qui est le CEO d'OVH, sur sa vision justement des grosses boîtes tech, pas en France, mais en Europe. Comment est-ce que, pour lui, il voyait ça pas, en fait... Il voyait pas émerger des très grosses boîtes, mais plutôt des moyennes boîtes, on s'entend, hein, des boîtes qui brassent des millions, voire un milliard, mais pas au niveau d'Amazon ou Google Cloud, mais en tout cas, des boîtes assez grosses et assez nombreuses en Europe pour justement offrir une alternative à ces géants-là. Je vais essayer de vous retrouver l'article de blog et je le mettrai en description. Mais pour moi, il y a aussi un enjeu, c'est si, en fait, on attend que les hébergeurs européens ou français soient au niveau. On risque d'attendre longtemps parce que finalement, on va pas leur faire confiance, on va pas leur donner d'argent. Et du coup, comme tu le dis, Damir, la R&D, c'est le nerf de la guerre. Donc, s'il n'y a pas de chiffre d'affaires pour investir dans la R&D, il y aura pas de R&D tout court. Donc, est-ce que c'est pas aussi à nous de faire un effort et de voir, en fonction des projets, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter? Et si on est prêt à accepter des choses un peu moins faciles, est-ce qu'on devrait pas aller chez les Français ou les Européens en tout cas ?
Après, c'est toujours pareil, je pense qu'il y a une question de coût aussi. Hein. Moi, j'ai commencé à travailler en faisant du run, en fait, donc de l'exploitation. Quand on fait une infrastructure proprement sur AWS, on aura vraiment beaucoup moins de charges de run dessus. Et c'est quelque chose pour une entreprise qui coûte cher d'avoir des équipes 24 sur 7 et des choses comme ça. Donc, voilà, ça c'est un premier gros problème. Après, c'est vrai que, comme tu dis, est-ce qu'on ne devrait pas se forcer à utiliser des choses un peu moins bien, mais du coup pour soutenir, déjà, faut avoir les moyens techniques, hein, parce que il faut former des gens, parce que les gens sont formés sur AWS et des choses comme ça maintenant par défaut, entre guillemets. Faut accepter de se dire, ah oui, mais c'est ça ma base de données, je vais peut-être la gérer un peu plus de bout en bout, je vais gérer les espaces de stockage et tout. Alors sur le cloud, c'est quelque chose que tu n'avais pas forcément à faire, donc c'est un confort quand même. Donc oui, je pense que là-dessus, il y a un effort à faire, oui, mais je pense aussi qu'il faut encore un peu de maturité au cloud européen pour offrir un minimum. Moi, je pense qu'aujourd'hui, et ça, on a une grande chance, c'est quand même Kubernetes, parce qu'il y a beaucoup de choses sur Kubernetes, et au final, c'est vraiment le service manager à avoir, mais au moins, ça regroupe les choses. Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut faire des infras simples, je ne pars pas dans des choses très compliquées, avec juste de l'object storage, du Kubernetes et de la base de données managée, et du Function as a Service, les fournisseurs européens commencent à pouvoir le faire. Et ça c'est grâce à l'open source aussi, parce que les choses-là sont devenues des standards open source, donc on peut les implémenter nous sans avoir à les redévelopper. Et je pense qu'il faut attendre que ça soit arrivé à une certaine maturité pour qu'on puisse envisager ce switch, au moins sur les choses les plus critiques.
Alors si on parle d'open source, la question peut se poser, en effet, il n'y a pas que Kubernetes, il y a aussi OpenStack, comme je le disais plus tôt. OpenStack, du coup, ça s'adresse vraiment à des entreprises qui ont pas mal de serveurs, et ça permet d'avoir un cloud public ou privé, qui est quand même assez proche de ce que peut proposer Amazon ou autre. Je sais pas si vous connaissez, vous, OpenStack. Moi, c'est vrai que je l'utilise de plus en plus. Ça fait plusieurs années maintenant que je suis passé complètement à OpenStack. Et OpenStack permet de proposer des services comme des bases de données managées qui sont très très proches de ce que proposent les grands hébergeurs, sans aller jusqu'à proposer, je sais pas moi, gestionnaire Git as a service. Mais bon... est-ce qu'on peut pas s'en passer de ces choses-là, et est-ce qu'on peut pas justement aller là-dessus? Surtout que je sais qu'il y a plein de data centers en France qui sont pas connus, qui proposent justement des OpenStack managés. Et donc, comme de toute façon Terraform peut s'adresser à OpenStack, est-ce qu'on peut pas faire ce move-là pour certains projets? Moi, je pense que si, en tout cas.
Alors oui, on peut faire le move. Après, comme j'ai dit, il y a un gros souci. C'est qu'encore une fois, tu dis, il y a plein de data centers français qui proposent de faire de l'hébergement avec l'OpenStack. Bah, c'est aussi ça notre souci, c'est qu'on s'est vachement parti dans tous les coins avec des offres différentes alors qu'on n'avait pas les moyens. On voit aux États-Unis, il y a globalement trois acteurs qui ont peut-être quatre avec DigitalOcean, peut-être deux, trois autres. Mais s'ils avaient quand même beaucoup plus de budget, nous, on a plein de petits acteurs, mais du coup, ils ne mutualisent pas leurs efforts, ils ne mutualisent pas leur R&D, leur travail dessus. Donc je pense qu'on a une grosse perte là-dessus aussi. Et je parlais de Kubernetes plutôt que d'OpenStack parce qu'en fait, Kubernetes, il permet un truc que OpenStack ne permet pas. En fait, dans la situation actuelle, c'est que Kubernetes est devenu plus ou moins, qu'on le veuille ou non, hein, qu'on aime le produit ou pas, un standard. C'est-à-dire aujourd'hui, je vais sur de l'Amazon ou je vais sur du GCP ou de l'OVH. Si j'ai un Kubernetes managé, je pourrais faire un switch très rapidement en fait, parce que ça sera la même API derrière, ce sera les mêmes types de conteneurs, etc. Donc je pense que là-dessus, il y a vraiment une chose qu'apporte Kubernetes que OpenStack par exemple n'apporte pas.
Oui, ça c'est sûr. En tout cas, les deux solutions proposent pas la même chose et à mon avis, s'adressent pas au même projet. Mais il y a des choses à gratter. Erwan, est-ce que tu as quelque chose à dire avant qu'on clôture? Puisque je vois l'heure tourner et on a beaucoup parlé quand même.
Non, moi je connais pas très très bien OpenStack, mais je rejoins pas mal Damien sur le fait que effectivement, si comme Kubernetes devient un vrai standard, c'était d'ailleurs la tendance 2019, hein, na naturellement, j'aurais tendance à partir plutôt là-dessus que sur OpenStack, quoi. Parce que je me dis que c'est avec ça, je serais moins lié à un provider et que je pourrais bouger comme j'entends, si jamais j'en ai besoin.
Damir, un petit mot pour conclure.
Ouais, pour moi, le gros enjeu là-dessus, bah, c'est surtout l'interopérabilité. Ils ont développé leurs API, leurs choses comme ça. Donc maintenant, il y a beaucoup de projets qui sont partis là-dessus et ils ont une place quand même qui est bien défendue, hein. Ils se sont fait leur petite place forte. Donc ça va être très dur de les sortir de là. Après, si on arrive à un peu mutualiser nos efforts, faire quelque chose de propre, qui est fonctionnel, créer une vraie communauté derrière et un peu bah, pousser dans les écoles ou des choses comme ça, parce que c'est important, hein. Demain, vous voulez monter un projet, vous tapez ingénieur AWS et vous tapez ingénieur sur cloud public OVH, bah si vous regardez comme ça, surtout qu'il faut recruter, parce que c'est compliqué aujourd'hui, vous allez partir sur de la AWS. Pour ça, il faut aussi un gros travail là-dessus. Donc je pense qu'il y a un espoir avec l'interopérabilité qui avance de plus en plus et plus de mains sur les formations et les choses comme ça, et le commercial, comme tu l'as dit, quoi, l'aspect commercial.
L'interopérabilité, pour moi, c'est le nerf de la guerre. En effet, les API de tous ces cloud providers, elles sont toutes différentes et on n'a pas de standard, en fait, comme on peut avoir avec l'HTTP ou l'HTTPS. On a un vrai standard. Là, pour le coup, il n'y a pas de standard quand tu t'adresses à une API pour créer une machine, ajouter un disque, etc. Si on avait un standard qui soit respecté par tous les acteurs du marché, ce serait beaucoup plus facile de se déplacer. Si on parle pas des services, hein, si on parle juste des briques d'infrastructure, on pourrait se déplacer de l'un à l'autre. Mais je pense quand même que ce qui fait la force d'Amazon ou Azure, c'est quand même les services en plus. Et là, pour le coup, je te rejoins assez. Il faut qu'on ait une sorte de fédération ou en tout cas un regroupement des acteurs francophones ou des acteurs européens pour pouvoir faire des choses ou pour pouvoir collaborer sur des logiciels open source pour créer des alternatives crédibles, en tout cas, qui soient pérennes sur la durée. Eh ben, je crois qu'on va s'arrêter là. On va clôturer cet épisode qui a été assez long et assez passionné. Et on vous dit à la prochaine pour un thème qui, pour l'instant, n'est pas encore décidé. On verra bien la prochaine fois. Je vous remercie tous les deux, en tout cas, de votre participation encore une fois. Et puis, bah, je sais pas, un petit dernier mot pour la fin avant de clôturer.
Pamplemousse.
Ah, que l'année 2020 soit celle des évolutions, du changement, et pourquoi pas avoir de nouveaux acteurs qui poussent un peu sur certains points, ça serait agréable.
Tout à fait, plein de nouveaux acteurs. Bon, eh bien, écoutez, à la prochaine.
Au revoir.
Au revoir.
Merci d'avoir écouté Radio DevOps. La balade de diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra. Si l'épisode t'a plu, note-le. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, cela nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement beaucoup plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, le plus simple, c'est que tu rejoignes la communauté des compagnons du DevOps. Le lien est en description. À bientôt. We'll be right back.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.